mercredi.
Mercredi.
Mamie, on est grosse mercredi.
Mercredi, mais c'est quoi?
C'est trop nul, mamie. Et tu connais même pas les inventions de l'armada.
Ben, explique-moi alors.
Ben, l'armada, c'est trop bien. C'est des gens qui font des spectacles de musique, de grands pour les enfants.
L'armada, oui, mais mercredi.
Une émission de grands pour les enfants.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui, lui?
Un jour, une question. Qui a inventé le cinéma? Le cinéma a été inventé en 1895 par Louis et Auguste Lumière, deux frères ingénieurs qui vivaient à Lyon, en France. Ils sont les premiers à avoir projeté un film en public grâce à une machine qu'ils avaient fabriquée. Mais pour concevoir cette machine, les frères Lumière se sont inspirés du travail de beaucoup d'autres inventeurs. Mais alors, comment le cinéma a-t-il été inventé? Au début, le cinéma doit beaucoup à la photographie. Dans les années 1880, la première utilisation d'une pellicule souple révolutionne la photo et donne l'idée à Thomas Edison, un grand inventeur américain, de mettre au point en 1891 une caméra et un appareil pour visionner les images. Ce deuxième appareil fait défiler très vite les photos prises par la caméra et donne l'illusion du mouvement. En 1895, les frères Lumière font mieux. Ils créent le cinématographe, qui sert en même temps de caméra et de projecteur. Et le 28 décembre, ils projettent pour la première fois un film devant un public. C'est la sortie des ouvriers de l'une de leurs usines. Parmi les spectateurs se trouve Georges Méliès, qui, ébloui par ce spectacle, va devenir l'un des premiers réalisateurs de films de fiction. Si les films des frères Lumière n'étaient pas des œuvres d'art, leur invention a sans conteste donné naissance au cinéma moderne. Aujourd'hui, le numérique, les effets spéciaux, la 3D ont beaucoup fait évoluer le cinéma. Mais la magie reste la même.
Vous venez d'entendre un jour une question. Qui a inventé le cinéma? Un jour une question, c'est un magazine d'actualité pour enfants. Avec une petite vidéo qui répond à une question. En expliquant avec une voix drôle et des dessins.
Mercredi!
Quand on parle de l'invention du cinéma, tout le monde répondra « Oui, ce sont les frères Lumière !» Ou encore, on te dira « Ah oui, Georges Méliès, qui est très célèbre pour ses trucages vidéo !» Eh bien moi, j'aimerais vous parler d'une femme qui s'appelle Alice Guy. Alice Guy n'a pas laissé autant de traces que ses hommes dans l'histoire du cinéma, alors qu'elle a permis beaucoup d'avancées. Découvrons-la tout de suite. Nous sommes en juillet 1873 et les parents d'Alice sont français. Ils vivent au Chili, un pays en Amérique du Sud. Mariette, la maman, vient en France pour donner naissance à Alice, Ida, Antoinette, Guy. Alice passe ses 6 premières années de sa vie en Suisse chez ses grands-parents, pendant que sa mère retourne au Chili. À ses 6 ans, Alice fait un grand voyage sur un bateau pour retourner au Chili voir ses parents. Le voyage durera 2 mois. C'est très long. On est en 1895. Alice a maintenant 21 ans. Elle s'intéresse beaucoup à la photographie et surtout au trucage photographique. Revenons aux frères Lumière, vous savez, Auguste et Louis. Alice les connaît très bien. Ils ont inventé le cinématographe. Le cinématographe, c'est un appareil qui peut enregistrer plusieurs photos à la suite. Et ça donne une impression de mouvement. Autrement dit, l'appareil permet de filmer et de projeter les images animées. On peut voir les images projetées dans une boîte obscure, mais pas sur un écran. Ça n'existe pas encore. Le patron d'Alice à l'époque s'appelle Léon Gaumont. Il travaille dans le cinéma. Aujourd'hui, quand on va au cinéma, c'est souvent dans un cinéma Gaumont. Bah voilà, ça vient de lui. est un art, mais c'est au début de son histoire. C'est nouveau et il y a tout à faire. Léon Gaumont et Alice Guy sont très enjoués par cette invention. Ils la font donc fonctionner dans leur cinéma. À l'époque, les spectateurs voient pour la première fois un train qui sort d'un tunnel projeté comme un film. Leur réaction est de se pousser car ils sont surpris. Ils ont l'impression que le train va leur foncer dessus. Mais Alice a envie de faire rêver par les images. Elle n'a pas forcément envie de montrer ce qui est réel. Elle n'a qu'une idée en tête, filmer. Une fiction avec l'appareil de son patron Léon. Léon accepte, mais pas pendant les heures de travail. Ainsi, Alice, après ses journées, va tourner le soir. Elle met en décor en carton des feuilles de choux géantes. Et elle emprunte des bébés à ses amis. C'est le premier film de fiction de toute l'histoire du cinéma. Ça s'appelle « La fée aux choux ». Ce film dure moins d'une minute. On y voit une femme en belle robe, entourée de gros choux. C'est un film muet, parce qu'on n'a pas encore inventé le son avec l'image. La femme se promène entre les choux et elle sort de chaque chou des bébés, tout nus, qu'elle dépose sur le sol. Bah oui, les garçons viennent des choux et les filles des roses. On me disait ça quand j'étais petite, mais je n'y ai jamais cru. Passionnée par le cinéma, elle continue ses expériences. Elle commence à filmer des trucages, par exemple. Elle se dit « si je tourne la manivelle de ma caméra à l'envers, ça pourrait faire quelque chose de rigolo. Si je filme une maison qui s'écroule et que je passe le film à l'envers, elle se reconstruit. Ou encore, si je filme un objet, je mets pause et je déplace cet objet, puis continue à filmer. Si je regarde le résultat, on a l'impression que l'objet s'est déplacé tout seul. C'est le principe du stop motion, l'image par image. Elle devient la seule femme productrice et réalisatrice de l'histoire. C'est elle qui produit tous les films de Gaumont à l'époque. Elle teste également le photosel. C'est une machine où on enregistre le son en même temps qu'on enregistre les images. Donc le cinéma à l'époque est muet, c'est-à-dire qu'on ne sait pas enregistrer le son. Personne ne parle dans le cinéma de l'époque. Et elle a commencé à faire le premier film parlant, 20 ans avant que le premier film parlant n'existe. Mais d'ailleurs, c'est quoi le premier film où on entend quelqu'un parler ? Ah oui, c'est le chanteur de jazz. Alice connaît un grand, grand succès avec ses films. Par exemple, ils ont été diffusés en 1900 dans la grande exposition universelle à Paris. Il y a eu plus de 51 millions de visiteurs qui ont pu voir les films d'Alice. Énorme succès. Elle se marie avec... j'ai oublié son nom, mais c'est pas très important. Et son mari doit aller vendre aux États-Unis un nouvel appareil qui s'appelle le chronophone. C'est l'ancêtre du cinéma parlant. Du coup, Alice se dit « je viens avec toi ». Puis, elle fonde sa propre société qui s'appelle Solax Film Co. Solax Film connaît un énorme succès aux États-Unis. Elle devient la plus grande société de films juste au démarrage d'Hollywood. Mais c'est elle, en fait, qui a créé Hollywood. Vous savez, la ville de tous les tournages avec les plus grandes stars de cinéma. studios de Solax, on tourne des westerns, des films de guerre. Alice a posé un grand panneau où il est écrit « Be natural », soyez naturel, pendant les tournages. Le racisme est très fort à cette époque, et les acteurs blancs refusent d'apparaître à l'écran avec des acteurs noirs. Alors, Alice décide de faire le premier film afro-américain, « A Fool and His Money », ça veut dire « Un imbécile et son argent ». Et ce film, elle ne le fait qu'avec des acteurs noirs.
Alice peut donc enfin réaliser des films d'une heure, des longs métrages. On filme avec des bobines, c'est un objet rond autour duquel on entoure une pellicule, une sorte de long ruban sur lequel sera gravé les images du film. On place cette bobine dans la machine qui l'a fait tourner, et comme ça les images défilent et sont animées. Au début, souvenez-vous du cinématographe des Frères Lumière. On pouvait émettre 17 mètres de bobines pour filmer une minute maximum. Pour faire de longs métrages d'une heure, il faut 1600 mètres, 1,6 km de bobine, ce qu'on appellera le 16 mm. Il faudra donc plusieurs bobines pour un même film. Il faut mettre les bobines les unes à la suite des autres quand on les diffuse dans un cinéma. C'était le travail du projectionniste.
Pendant ce temps, la Première Guerre mondiale éclate en France. Alice, qui vit aux États-Unis, est loin de tout cela. Elle continue son travail normalement. Un jour, elle arrive à son studio de cinéma. Et là, plus rien. Un terrible incendie a tout brûlé. Les décors et surtout les bobines de films. Elle fait donc faillite et retourne en France. Elle n'a plus de travail, mais continue à aller au cinéma. Elle va regarder le nouveau genre, les films parlants. Elle n'est pas très convaincue. Elle préférait les films muets, car pour elle, le parlant fait beaucoup trop penser au théâtre. Décidément, les bobines des films qu'elle avait réalisés en France ont eux aussi été brûlées pendant la guerre. Dans toute sa carrière, elle a tout de même réalisé plus de 1000 films. Au-delà des films détruits, un employé de Gaumont a déclaré être l'auteur de tous ses films. Scandale, ouh, honte sur toi, c'est faux! Autre problème, Alice ne signait jamais ses films. Elle ne mettait pas de générique à la fin avec son nom. Après avoir défendu sa cause pendant des années, Alice réussit enfin à se faire entendre. Elle est reconnue. Déclarée pionnière du cinéma muet, elle reçoit la Légion d'honneur à 84 ans.
J'aime écouter la radio mercredi!
Georges Méliès est un grand nom du cinéma français. Il fut un prestidigitateur puis un réalisateur de films. Prestidigitateur signifie une personne qui, par la manipulation et des trucages, produit des illusions magiques en faisant disparaître, puis apparaître, changer de place ou d'aspect à des objets. En d'autres mots, il s'agit d'un magicien. Il est le pionnier du trucage au cinéma. Au départ, il n'a qu'un rêve, monter des spectacles de magie. Il rachète en 1888 un théâtre parisien et y réalise des spectacles de prestidigitation qu'il présente en personne. Il est donc l'un des premiers à avoir su utiliser l'invention des frères Lumière dans une dimension artistique. Il a utilisé son passé de prestidigitateur pour inclure dans ses films des trucages. Les trucages qui sont les ancêtres des effets spéciaux. Vous voyez les effets spéciaux? Ce sont des techniques utilisées au cinéma pour des illusions, comme simuler des objets, des environnements, des personnages ou des phénomènes qui n'existent pas dans la réalité ou qui ne pourraient pas être filmés au moment du tournage. C'est donc ce fameux Méliès qui inventa le premier trucage. Et comme cela arrive souvent, ce fut par hasard. L'appareil qu'il utilisait s'est bloqué, comme ça arrivait souvent à l'époque d'ailleurs, car on utilisait des pellicules et il arrivait que celles-ci se bloquent dans l'appareil et refusent d'avancer, parfois même se déchirent. C'est ce qui arriva et produit un effet inattendu. C'était un jour où il photographiait la place de l'Opéra. Une minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule qui faisait des siennes et remettre l'appareil en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures avaient changé de place, forcément. En rentrant chez lui, il ressoude les deux morceaux de pellicule et projette la bande. Surprise, il vit subitement, sur la même image, un omnibus se changer en corbillard, car celui-ci avait pris sa place. Et les passants, s'étant déplacés, donnaient l'impression que des hommes étaient changés en femmes. Et voilà, le trucage par substitution était trouvé. Les trucages furent donc à l'origine obtenus par la caméra. Aujourd'hui, on distingue trois moyens de réaliser des trucages ou effets spéciaux. Par la caméra, le décor, et on peut même faire certaines choses en laboratoire. Les effets spéciaux de caméra sont l'arrêt de caméra ou substitution, comme on vient de le voir avec Méliès, la marche arrière, l'accéléré et le ralenti. Les effets spéciaux de décor, eux, n'ont cessé de se perfectionner depuis Méliès, qui en a inventé quand même un grand nombre pour ses films et spectacles. Je pense que tout le monde a déjà vu l'image très connue de la Lune avec un visage et un obus géant dans l'œil. Eh bien, cette image provient du film « Voyage dans la Lune » de Georges Méliès, tiens. Il s'agit du premier film de science-fiction sorti en 1902. Aujourd'hui, le cinéma a bien évolué, avec l'arrivée du numérique, par exemple. L'utilisation de la 3D, etc. On est bien loin du cinéma muet et ses réalisateurs, mais jamais on ne les oubliera. La magie reste la même.
Mercredi.
Passons maintenant au cinéma d'animation. Je n'ai pas envie de vous raconter son histoire, ou peut-être une autre fois, pourquoi pas. Je ne vais pas non plus vous parler des films produits par Disney ou Pixar. Non, j'aimerais bien mieux vous parler des films des studios Ghibli. Alors qu'est-ce que c'est Ghibli ? Eh bien tout simplement, c'est un studio japonais de films d'animation, reconnu à travers le monde pour leur grande qualité. Il a été fondé en 1985. Le studio est dirigé par les réalisateurs Hayao Miyazaki, Isao Takahata et le producteur Toshio Suzuki. Le nom de Ghibli a été donné par Hayao Miyazaki. Il a été inspiré par le mot italien Ghibli, qui s'orthographie exactement de la même façon, qui signifie un vent chaud du désert. Son but était un peu de faire exploser un nouveau vent dans l'industrie du dessin animé. Et il y est arrivé. Leurs films ne sont pas destinés qu'aux enfants, mais aussi aux rêveurs. Mais cela n'empêche pas certaines de leurs œuvres de traiter de problèmes graves. Ils sont de vrais spectacles aux dessins pleins de charme, aux décors très réalistes, mais surtout d'une très grande imagination. Ils traitent de sujets graves et profonds, avec beaucoup de délicatesse et d'intelligence. Ils créent des univers très féeriques pour chacun de leurs films, bien qu'ils soient tous différents. Leur grande qualité est de réussir à émerveiller les petits comme les grands, sans violence gratuite et superflue. Les films de Miyazaki sont généralement les plus poétiques et les plus amusants des films de Ghibli. Les œuvres de Miyazaki sont destinées aux enfants, et toutes font preuve d'un attachement profond à des valeurs qui sont belles, mais surtout importantes, comme la tolérance, l'écologie et l'humanisme. Chacun de ces films sont porteurs de messages. tandis que les films de Isao Takahata sont plus sérieux et ses histoires sont toujours source de réflexion. Mais ils sont superbes aussi. Il n'y a pas tellement de héros ou de méchants dans les films d'animation de Studio Ghibli. Il y a juste beaucoup de magie, de l'émerveillement et de l'amour. Il ne fait aucun doute que l'animateur japonais Hayao Miyazaki est l'un des meilleurs de son art. Maintenant, j'aimerais bien vous présenter trois films réalisés par Hayao Miyazaki et produits par les studios Ghibli. Alors, le premier est Nausicaa de la Vallée du Vent. Il a été inspiré par la bande dessinée qui porte le même nom. Je vais vous lire des résumés à chaque fois pour chacune des histoires. Alors la première, du coup. Nausicaa et la Vallée du Vent. La Terre a connu des jours très durs et est couverte par des forêts rejetant des gaz empoisonnés gardés par des insectes géants. La planète se remet lentement et les humains continuent à vivre. Bien des temps après, des pays se sont reformés dans la Vallée du Vent. Petits pays agricoles indépendants, situés au bord d'une forêt toxique. Véritable petit paradis. La Vallée du Vent est protégée des vapeurs toxiques par les vents venant de la mer et prospère tranquillement sous le règne bienfaisant du roi Jill et de sa fille Nausicaa. Mêlée malgré elle à une guerre entre deux pays voisins, Nausicaa va tout faire pour protéger son peuple. Arrêter la guerre et montrer au monde le rôle que joue la forêt toxique et les insectes dans la purification du monde. Voilà, donc ça c'était le premier film. En second, il y a Mon voisin Totoro. Alors, imaginez qu'au fond des forêts japonaises se cachent des créatures fantastiques, que seuls les enfants peuvent les voir. Imaginez les Totoro, sortes de gros ours au grand sourire. Imaginez un chabus qui vous amène où vous voulez en ronronnant. Imaginez l'émerveillement de Satsuki et de sa petite sœur Mei en les découvrant. Mon voisin Totoro est un film calme, se déroulant dans de superbes décors de campagne japonaise, qui dégage une magie et une véritable féerie. Et terminons avec mon préféré, qui était mon film d'enfance favori, qui s'appelle Kiki la petite sorcière. Et si on vous disait que la magie existe, que les sorcières la pratiquent, qu'elles ne sont pas forcément comme Carabosse, mais peuvent être mignonnes comme Kiki? Tout cela est vrai dans le film Kiki la petite sorcière, qui raconte qu'à 13 ans, comme le veut la tradition, une sorcière doit faire preuve de maturité en vivant un an toute seule dans une grande ville. Kiki et son chat, Gigi, devront faire face à l'incompréhension des gens et réussir à s'intégrer dans un lieu inconnu.
La 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 la
Mercredi. 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 Mercredi.